France Culture. Ils ont changé le monde. Les accords internationaux. Isabelle Lasserre.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série d'été des grands accords internationaux sur France Culture. Aujourd'hui, cap sur le continent africain. La France a été chassée d'Afrique. En à peine 2 ans, depuis 2022, ses forces armées ont dû quitter le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et même des alliés aussi solides que la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Avec ces départs, se sont évanouis les accords de défense signés entre Paris et la plupart de ses anciennes colonies africaines qui établissaient une étroite coopération, notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité. Avec leurs clauses secrètes, ces accords ont permis les interventions militaires de la France qui envoyait ses militaires au secours des régimes déstabilisés pour asseoir la légitimité de pouvoirs politiques favorables à ses intérêts, pour lutter contre le djihadisme comme elle le fit au Sahel ou pour mettre fin à des guerres civiles. Le départ des troupes françaises du continent africain signe la fin d'un monde, celui des interventions au Tchad, au Togo, au Gabon, au Rwanda, à Djibouti, au Zaïre, en Somalie, en Côte d'Ivoire, au Mali, en Libye, au Cameroun, celui de la France-Afrique, cette relation à la fois intime et malsaine entre la France et ses anciennes colonies. Le départ des troupes françaises a été amplifié et parfois même provoqué par la poussée de la Russie et des mercenaires de Wagner. Le Kremlin veut faire de l'Afrique une zone d'influence pour sa diplomatie, ses intérêts sécuritaires et ses objectifs économiques. Il veut retrouver la place qui était celle de l'URSS sur le continent après la décolonisation et jusqu'à la fin des années 90. En quelques années, Vladimir Poutine a fait de l'Afrique, où pousse aussi l'influence chinoise, une nouvelle ligne de front entre l'Occident et le Sud global. Et le sentiment anti-français n'y a jamais été aussi virulent. Que s'est-il passé? Les Français sont-ils restés trop longtemps en Afrique? N'ont-ils pas vu les changements du monde qui n'épargnaient pas le continent? L'épuisement du modèle démocratique en Afrique rendait-il les choses inéluctables? Quelles sont les conséquences de l'effacement français pour la région, mais aussi pour l'Europe? Cette absence est-elle irréversible? C'est de tout cela dont nous allons discuter aujourd'hui avec le général de corps d'armée, Olivier de Bavinkov. Bonjour.
Bonjour.
Général, vous avez commandé le 1er régiment de hussards parachutistes. Vous avez été chef d'état-major des forces internationales et commandant des forces françaises de 2011 à 2013 en Afghanistan. Et aujourd'hui, vous êtes vice-président exécutif de Rivolier, un groupe qui travaille aussi en Afrique. Bienvenue sur ce plateau. Et nous accueillons aussi Antoine Glaser. Bonjour Antoine Glaser.
Bonjour.
Grand spécialiste de l'Afrique. Vous avez publié « Le piège africain » d'Emmanuel Macron chez Fayard en 2021, coécrit avec Pascal Hérault. Et toujours chez le même éditeur, « Africa France » et « Arrogant comme un Français en Afrique », aujourd'hui, vous publiez encore aux éditions Fayard votre première fiction, Sombre Lagune. Alors, la France est le seul pays du monde à avoir signé des accords de défense avec ses anciennes colonies. Quel était le contexte de l'époque, Antoine Glaser? Pourquoi cette particularité française?
C'était la guerre froide. Faut quand même pas oublier, c'était une période historique. Entre les indépendances de 1960 jusqu'à la chute du mur de Berlin en 89-90. Et c'est vrai que c'est un système intégré qu'on appelle, pour faire court, la France-Afrique, mais c'était intégré, c'est un système intégré politique, militaire, financier, système politique, parce que les jeunes ne savent pas, mais un certain nombre de dirigeants de ces pays avaient été eux-mêmes ministres dans des gouvernements français comme Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire ou Léopold Sédar Senghor du Sénégal. Vous aviez également des militaires comme le général Eyadema du Togo qui avait été lui-même adjudant-chef dans l'armée française, Bokassa, que tout le monde a connu, qui finit comme empereur Bokassa. C'était quand même une période historique. Ce sont des gens qui n'étaient pas simplement francophones, qui étaient francophiles et que c'était vraiment un système intégré, donc politique, militaire, les accords secrets dont on va sans doute parler, économique et financier, parce qu'avec une monnaie, le franc CFA. Donc c'était vraiment une période historique très particulière, ce qu'on ne sait pas. C'était vraiment la période de la guerre froide. Ce qui ne veut pas dire que le général de Gaulle ne surveillait pas les Américains également déjà sur le continent. Mais c'était quand même une période historique. Pour moi, ce n'est pas l'histoire de sentiments, c'était l'histoire. C'était une période particulière.
Général de Bavinkov, il devait servir à quoi ces accords de défense initialement?
En fait, si vous voulez bien, je vais revenir une seconde sur ce que vient de dire Antoine Glaser, que je partage. Je partage entièrement ce qui vient d'être dit, mais je voudrais rééclairer ça à la lumière de ce qui s'est passé à cette période. Et je suis entièrement d'accord pour dire qu'il faut avoir la grammaire des années 60. Si aujourd'hui nous réfléchissons sur les années 60 être la grammaire des années 2020 ou 2030, nous nous trompons complètement et nous ne sommes pas capables de bien appréhender quels étaient les grands courants de l'époque. Quelles sont les années 60 qui sont très proches de nous? Mais c'est quand même plus de 60 ans. D'une part, nous sommes au lendemain de la guerre. Le lendemain de la guerre où la France s'est effondrée en 1940. En juin 40, la France s'est effondrée. Et au fond, d'une certaine façon, la France libre du général de Gaulle a lavé l'honneur de la France, mais elle l'a lavé avec l'aide et sous couvert depuis ces mêmes colonies dont nous parlions à l'instant. La colonne Leclerc, elle s'ébranle depuis l'Afrique noire. Et elle se constitue à partir de ressources qu'elle trouve en Afrique noire. L'épopée Leclerc commence bien évidemment au Cameroun et se poursuit au Tchad, etc., etc. Et ensuite, lorsque le général de Gaulle revient au pouvoir en 1958, 13 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1958, le général de Gaulle, il a une obsession unique. C'est restaurer la grandeur, la puissance, l'influence de la France. Et sa vision, qui, me semble-t-il, est une vision extraordinairement moderne pour l'époque, sa vision est qu'il n'y a pas de capacité ou de possibilité de puissance sans indépendance énergétique. Parce qu'il voit très bien, il vit ce que seront les Trente Glorieuses, bâtir cet extraordinaire outil industriel qui a été bâti dans ces années-là, sous les présidences de Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing. Or, que se passe-t-il en 1962? En 1962, l'Algérie devient indépendante. Or, l'Algérie nous apportait de facto, pas de jure seulement, mais de facto, elle nous apportait du pétrole et du gaz, en abondance absolue. L'Algérie est un très très grand pays, qui trouve dans son sous-sol des ressources qui étaient absolument indispensables au développement industriel de la France et d'autres pays européens. Et donc, la réflexion du général de Gaulle de cette époque, c'est de dire qu'à partir du moment où nous perdons les ressources de l'Algérie, puisque l'Algérie devient indépendante et va pouvoir négocier la vente de ses ressources aux pays qu'elle souhaite, selon sa politique, eh bien, le général de Gaulle estime qu'il faut se retourner très très rapidement vers l'Afrique noire, vers un certain nombre de pays qui sont extraordinairement présents dans la France-Afrique qu'évoquait à l'instant Antoine Glaser. Et je pense en particulier au Gabon pour le pétrole, je pense au Niger pour l'uranium qui est indispensable pour construire l'indépendance énergétique nucléaire de la France.
Antoine Glaser...
Oui, pour poursuivre sur... les ressources énergétiques, c'est vraiment important, effectivement, de comprendre la France qui perd l'Algérie. Et c'est là où on comprend l'intérêt pour la France des accords secrets avec ces pays. Ça veut dire la France coopte des dirigeants.
C'est-à-dire, en fait, des clauses secrètes
qui sont complètement liées aux matières premières stratégiques. Ça veut dire, l'accord est très clair. C'est aux chefs d'État africains, on vous garantit votre sécurité. On surveille même votre propre armée pour pas qu'il y ait des coups d'État. On assure entièrement votre sécurité avec un certain nombre de postes qu'on appelait des postes de renseignement autour des présidents pour être bien informés qu'il leur arrive rien. Et en échange, vous nous donnez votre uranium, votre pétrole et autres à des prix bien évidemment privilégiés. Et surtout, vous ne les offrez à personne d'autre. À tel point que c'est très intéressant quand on voit les mémoires de Jacques Foccart, Monsieur Afrique du général de Gaulle, quand à un moment donné, de Gaulle en a assez d'avoir un certain nombre de chefs d'État africains à sa table matin, midi et soir, il dit « Jacques, j'en ai marre d'avoir vos nègres matin, midi et soir à ma table ». Et à ce moment-là, Jacques Foccart lui répond « Mais mon général, si vous ne voulez pas que l'uranium du Gabon parte chez les Américains, parce qu'en fait, on disait toujours la guerre froide contre les Russes, mais il y avait aussi les Américains. Et donc, si vous ne voulez pas, il faut vraiment préserver nos intérêts ». Effectivement, l'uranium du Niger a été extrêmement important pendant très longtemps. Moi, je faisais tous les voyages comme ça présidentiels et j'ai vu le président Mitterrand accompagner le président Sani Kounché du Niger, là où il y avait les missiles et autres en France, sur le plateau d'Albion, et lui montrer là où il y avait l'uranium du Niger. Ils l'ont fait descendre là où il y avait les ogives nucléaires pour vous montrer à quel point il y avait ce système intégré entre l'Afrique et la France, même sous Mitterrand. Donc si on comprend, c'est intéressant de parler des accords. Ensuite, les accords, franchement, les accords de défense, en dehors de Djibouti, dont on parlera peut-être, quand il y a les nouveaux accords qui ont été signés récemment par Emmanuel Macron. Mais en dehors de Djibouti, les autres accords n'ont pas vraiment eu d'importance. Ce qui était important, c'était les intérêts de la France. Et la France est intervenue ensuite au Tchad, où il n'y avait pas d'accord de défense, pendant des dizaines d'années, avec des opérations sur le Tchad, même encore récemment, avant que la France se fasse virer du Tchad. Mais je veux dire, il faut comprendre les intérêts de la France qui primaient, et les accords, finalement, il y avait des accords de partenariat militaire, mais ce n'était pas ça qui primait.
Et dans les clauses secrètes, donc, c'est l'accès aux ressources
absolument,
énergétiques et pas du tout la défense, en fait.
Non, en fait, c'était vraiment... Enfin, il y avait la défense, c'était quand même la guerre froide et autres. Mais finalement, on dit accord secret, ensuite il y a eu des accords de partenariat militaire. Mais quand la France, l'accord secret, par exemple, quand vous avez un coup d'État au Gabon en 1964 pour rétablir Léon Mba, avec Maurice Robert à sa tête, qui était l'homme de Jacques Foccart à l'époque, c'est bien évident que ça, pour établir le Wamba, ce qui intéressait effectivement la France, qui avait perdu l'Algérie, c'était d'avoir les ressources. À l'époque, c'était Elf Aquitaine, qui est devenu Total par la suite. Mais c'était vraiment les intérêts stratégiques, c'était les matières premières.
Général de Bavankoff, le Royaume-Uni n'a pas fait la même chose avec ses anciennes colonies. Il n'y a pas eu d'accord de défense.
Mais pas Pourquoi du tout. Pas du tout. Il y a eu une approche qui est radicalement différente pour un pays qui, par ailleurs, partageait avec nous le même souci de la puissance, de l'influence et d'une vision qui était une vision mondiale de son influence, qui n'était pas réduite au seul périmètre européen ou nord-atlantique. C'est une question extraordinairement intéressante. Pourquoi les anglo-saxons, notamment le Royaume-Uni, qui avait un empire colonial extraordinairement important, bien plus important à la limite du point de vue des ressources qu'on y trouvait que celui de la France, pourquoi le Royaume-Uni ne s'est pas engagé dans une politique similaire de la nôtre? Pour beaucoup de raisons. D'abord, il faut toujours penser que, au-delà des intérêts bien compris des pays, il y a aussi des raisons culturelles. Il y a des raisons culturelles qui étaient des raisons qui font que le britannique est profondément différent du français. C'est-à-dire que ses sources d'inspiration, sa façon de fonctionner, le regard qu'il porte sur les autres, l'histoire qui est celle d'un pays insulaire, impactent fortement sa réflexion et les choix qu'il prononce. Pour autant, dans le domaine de l'énergie qui nous préoccupe aujourd'hui énormément, on l'a vu à la faveur du conflit ukrainien, on l'a vu à la faveur des tensions avec l'Algérie, on voit bien à la faveur de la politique de relance aux États-Unis qu'on observe depuis une dizaine d'années avec l'exploration du gaz de schiste et son exploitation surtout, on voit bien que l'humanité, que la Terre est à la recherche d'énergie, que l'énergie fait et définit les politiques de grande puissance. Et il me semble que notre pays a toujours l'intention de rester une grande puissance, une puissance qui est grande. Et donc, ce domaine énergétique est un domaine absolument fondamental. La Grande-Bretagne rencontrait exactement les mêmes contraintes que nous vis-à-vis de l'énergie, puisqu'elle n'a pas de ressources énergétiques abondantes et disponibles. Il s'avère quand même que très rapidement, les gisements de la mer du Nord, qui sont aujourd'hui exploités principalement par la Norvège, mais également par la Grande-Bretagne, permettaient d'envisager de pallier dans une certaine mesure les besoins énergétiques de la Grande-Bretagne. Mais moi, il me semble que dans les accords qui liaient la Grande-Bretagne aux États-Unis, et qui sont des accords qui, au fond, ont été noués au cours de la Deuxième Guerre mondiale entre Churchill et Roosevelt, il y avait l'assurance, la garantie que la Grande-Bretagne ne manquerait jamais de source d'énergie, que ces accords très particuliers qui lient la Grande-Bretagne aux États-Unis en faisaient mention. Si vous me permettez, je dirais bien un mot pour revenir sur ce que disait Antoine Glaser sur cette situation des années 60 et 70 qui voit l'éclosion de tous ces accords de défense. Il ne faut pas oublier l'URSS. Je disais tout à l'heure que la question énergétique est la question fondamentale à la source des accords de défense. Mais derrière tout ça, il y a aussi un affrontement gigantesque, qui est un affrontement d'influence entre l'URSS communiste, qui est clairement à l'offensive par le biais de multiples bras armés que l'on pourra évoquer plus précisément au fil de notre discussion, et que, évidemment, l'Occident, appelons ça l'Occident, l'Europe, les États-Unis, sont extraordinairement vigilants vis-à-vis de cette tentative de l'URSS de contourner, de s'implanter et de contrecarrer nos intérêts, notamment dans l'ensemble de ces pays qui viennent d'accéder à l'indépendance. Et on voit énormément de mouvements de déstabilisation. On parle aujourd'hui de Wagner. Wagner, c'est un phénomène très récent. Il faut se souvenir de Kosygin, de Brejnev, d'Andropov, de l'ensemble des services russes qui étaient extraordinairement à l'offensive en Afrique et que nous avons, d'une certaine façon, contrecarré. Donc, bien sûr, Wagner, mais regardons attentivement ce que nous avons fait dans les années 60 et 70.
On y reviendra tout à l'heure, parce qu'on va faire un peu la genèse du départ des Français d'Afrique. Mais là, je crois que c'est le moment de se poser la question. Avec la rupture, en fait, l'effacement des accords de défense entre la France et les pays africains, donc tous les accords énergétiques tombent. C'est-à-dire, qu'est-ce qui reste à la France, en fait ?
Alors, en fait, dans le domaine du pétrole, c'est vrai qu'il y a toujours Total, qui n'a jamais d'ailleurs été en dehors de la période Elfaquitaine, au Gabon, au Congo-Brazza. Mais la plupart des grands gisements de Total, c'est hors de l'Afrique francophone, de l'ancien précaré. C'est l'Angola, c'est le Nigeria. Ils essayent actuellement d'exploiter du gaz au Mozambique, d'ailleurs avec une protection de l'armée rwandaise. Donc, c'est pas du tout dans le précaré.
Par l'uranium.
Alors, l'uranium, là, il y a eu vraiment un enjeu absolument incroyable au Niger, où là, ce sont surtout les Chinois. Vous avez les Chinois au Niger, extrêmement actifs, non seulement dans l'uranium, mais également dans le pétrole. Et ce qui est incroyable, et là, il y a vraiment, je pense qu'il y a une erreur de la stratégie française dans les mines en Afrique.
On va en parler, oui.
La France avait un bureau de recherche géologique et minière, BRGM, extrêmement compétent. La France vraiment connaissait parfaitement toute la géologie, surtout dans son ancien précaré, et a totalement abandonné ça. Alors que la guerre qui va se jouer actuellement, la géostratégie africaine entre Russes, Chinois, l'Occident en général, et la France a abandonné complètement les mines, alors que c'est là, les Américains par exemple, ne s'intéressent à l'Afrique qu'à travers les lunettes des mines, des minerais. Ils s'intéressent à la République démocratique du Congo, là où il y a justement le coltan, la bauxite, etc. Donc le véritable enjeu actuellement de l'Afrique, de demain, ce sont les terres rares. C'est beaucoup plus stratégique que le pétrole, dont on trouve un peu partout. Donc c'est ça, le véritable enjeu est vraiment sur les mines en Afrique, les minerais. Et là, la France, à mon avis, a raté le coche. Ça veut dire autant dans le domaine du pétrole, elle a vraiment un avantage avec Total, autant dans le domaine des minerais. Honnêtement, je comprends pas. D'ailleurs, personne ne parle plus du tout du BRGM, qui avait une connaissance absolument incroyable. Au Niger, par exemple, autour de l'uranium d'Imouraren, qui était le plus grand gisement, là où on disait toujours que les Chinois avaient pris tous les permis autour du permis français d'Areva, qui est maintenant Orano, pour pouvoir pomper aussi une partie de l'uranium du Niger.
D'accord. Donc le BRGM, c'est celui dont vous parliez.
Le BRGM, mais il y avait surtout Areva, qui est Orano maintenant dans l'uranium, qui va abandonner, qui était le grand gisement, le grand espoir de la mine africaine. Et actuellement, compte tenu du coup d'État qu'il y a eu au Niger et des rapports, et finalement, on ne sait pas du tout encore où est-ce que cet uranium du Niger, où est-ce qu'il va atterrir. Mais ça intéresse autant aussi bien les Chinois que les Iraniens, que le monde entier.
Alors, on va écouter un son de François Hollande. C'était à Bamako, le 2 février 2013. C'est une archive de TV5 Monde.
Votre pays va connaître une nouvelle indépendance qui ne sera plus cette fois la victoire sur le système colonial, mais la victoire sur le terrorisme et sur l'intolérance et sur le fanatisme. Voilà votre indépendance. Le terrorisme a été repoussé. Il a été chassé, mais il n'a pas encore été vaincu. Alors qu'avons-nous à faire ? Continuer, poursuivre. Et la France restera avec vous le temps qu'il faudra.
Alors, au cours de ce même voyage, François Hollande est aussi allé à Tombouctou et il a déclaré qu'il s'agissait de la journée la plus importante de sa vie. Il était accueilli par des liesses de Maliens qui le remerciaient de l'intervention militaire française qui avait chassé les djihadistes qui menaçaient Bamako. Et à l'époque, on le disait « Merci, papa Hollande ». Une dizaine d'années plus tard, les militaires français ont fait les bagages du Mali comme des autres pays de la région Comment en est-on arrivé là si vite, Antoine Glaser ?
On a parlé tout à l'heure d'un système intégré de la France-Afrique. Ça ne pouvait fonctionner que dans un système intégré. Pour moi, l'armée française s'est trouvée à un moment donné hors sol. Ça veut dire hors du contexte politique, économique, des pays dans lesquels elle intervenait. À un certain moment donné, c'est pour ça qu'elle s'est fait balayer aussi rapidement. À une période de la guerre froide dont on parlait tout à l'heure, vous aviez des dizaines de milliers de coopérants. Moi, j'ai connu encore la Côte d'Ivoire avec 50 000 coopérants. Les Ivoiriens, qui ont beaucoup d'humour, avaient rebaptisé le ministère du Plan en Côte d'Ivoire au ministère du Blanc. Vous aviez vraiment une structure, vous aviez des conseillers français partout. Dans le Sahel, à un moment donné, l'armée française, et même off, souvent vous avez des généraux qui vous disent « Oui, c'est vrai que Barkhane a été une erreur. La première opération pour empêcher les djihadistes de descendre plus bas que Mopti au Mali, c'était une bonne opération. »
Serval, donc.
C'est Serval, mais aux opérations Serval, c'est une bonne opération. Mais Barkhane, franchement, déjà au départ, c'est 5000 soldats.
Barkhane, il faut rappeler, c'est la transformation de l'opération Serval en Barkhane qui était une opération plus régionale.
Plus régionale, mais quand même 5000 soldats français sur 5 millions de kilomètres carrés, alors que vous aviez en Afghanistan 100 000 Américains sur 600 000 kilomètres carrés. Donc je veux dire, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça a été un peu réduit à
150 000. 100 000 Américains et 50 000 forces britanniques, françaises, ouais. 150 000 hommes.
Mais vous voyez bien les dimensions, c'était impossible. Alors après, ça a été réduit au Liptai Kogourma. Mais la France, l'armée française, s'est trouvée totalement hors sol par rapport à des réalités du terrain, par rapport à des gouvernements, des pouvoirs africains qui utilisaient même les ressentiments déjà anti-français vis-à-vis de leur population pour dire « c'est les militaires, les Français veulent tout faire chez nous ». Donc c'était ça l'idée générale. Les militaires français hors sol, et donc c'est pour ça que ça a été aussi rapide, la façon dont la France elle s'est fait balayer de l'ensemble de cette région.
Général de Bavankov, est-ce que la France a commis des erreurs ? Est-ce que Emmanuel Macron aurait dû retirer les troupes plus tôt ? Est-ce que, finalement, à partir du moment où on reste trop longtemps, les interventions militaires sont considérées comme des forces d'occupation ? Comment ça marche ? Est-ce qu'il y a des règles ?
Il y a beaucoup de questions, donc on va essayer de les serrer. Lorsque Antoine Glaser parle de système intégré, c'est un système qui a une très grande cohérence et qui a une très grande force, très grande puissance. Ce qui a été bâti par le général de Gaulle à l'époque, ou qui a été consenti par le général de Gaulle, est un système qui rassemble dans les mains de quelques hommes clés, tous les instruments du pouvoir. Et ces hommes clés, on les connaît très bien. On en a cité un, bien sûr, avec Jacques Foccart, qui crée le poste qui sera le sien de secrétaire général aux affaires africaines. Je ne me rappelle plus exactement sa définition, mais quelque chose comme ça à l'Élysée. Ensuite, il va s'appuyer évidemment sur les services secrets français, qui sont à la disposition du secrétaire général pour les affaires africaines dans cette période-là, cette période très très longue dans laquelle Jacques Foccart va poursuivre son action. Et puis, il va s'appuyer sur des ressources humaines et financières absolument illimitées, qui sont fournies par Elf Aquitaine, dirigée à l'époque par M. Guillaume, qui a été ministre du général de Gaulle, ministre des armées, qui dirige Elf Aquitaine, et qui va être ces deux hommes clés, Jacques Foccart d'un côté, plus un certain nombre de collaborateurs, et M. Guillaume de l'autre, avec Elf Aquitaine, vont mettre sur pied un système qui a une extraordinaire puissance, qui est extrêmement réactif, qui est en lien direct avec la plupart des chefs d'État importants de ces pays, qui chaque semaine sont au téléphone, en rendez-vous, etc., comme déjà évoqué, et avec ces moyens humains et financiers qui sont tout à fait conséquents et qui permettent à la France de jouer un rôle tout à fait premier et sa partition. Puis ensuite, comme tout système, le système se délite. Il se délite pour beaucoup de raisons, en fait. C'est assez difficile de dire quels sont les éléments qui ont le plus impacté et déstabilisé ce système très cohérent qui va fonctionner au fond des années 60 jusqu'au départ de Jacques Foccart à la fin des années 70, même avec son successeur qui a été son adjoint et qui va rester encore pendant 3 ou 4 ans. Mais le système va se déliter. Donc il va durer, j'arrondis un peu les chiffres, entre 20 et 25 ans, très très cohérent. Pourquoi se délite-t-il ? Pour beaucoup de raisons. D'abord parce que nous perdons au fond la vision qui est la vision des années 60. Nous perdons cette vision que l'énergie est absolument vitale. Pourquoi perdons-nous cette vision ? Peut-être aurions-nous commis la même erreur si nous avions été, à l'époque, dans des situations de responsabilité. Parce que la France accède à un parc nucléaire créé grâce à l'uranium du Niger, qui se met à fonctionner, qui lui donne une formidable autonomie. Elle est très singulière en Europe du point de vue de l'investissement dans tout cet ensemble de centrales nucléaires qui fonctionnent toujours aujourd'hui. On a fermé Fessenheim, mais toutes les autres centrales qui ont été bâties dans les années 70 ou 80 sont toujours en service aujourd'hui et permettent d'allumer l'électricité qui nous éclaire. Et donc, j'imagine qu'à partir de ce moment-là, nous avons un peu un sentiment de suffisance. Et donc, nous perdons le sentiment que quelque chose de vital, absolument essentiel au développement futur du pays, notamment dans le domaine des matériaux rares, des terres rares, comme on les appelle aujourd'hui, parce que nous avions à l'époque établi des compétences incroyables, des compétences scientifiques, des compétences géologiques, et ces compétences, elles s'atténuent au fil du temps.
Alors, on va écouter un autre son. On va écouter le président du Sénégal et le président du Tchad qui annoncent, donc, après le Mali, le Burkina Faso et le Niger, la rupture des accords de défense. Ce sont des sons qui datent de la fin de l'année 2024, de l'AFP et de RFI.
Le Sénégal est un pays indépendant. C'est un pays souverain. Et la souveraineté ne s'accommode pas de la présence de bases militaires dans un pays souverain. En 65 ans bientôt après notre indépendance, les autorités françaises doivent aussi envisager d'avoir un partenariat dépouillé de cette présence militaire-là, mais qui soit un partenariat riche, un partenariat fécond, un partenariat privilégié et global, comme nous l'avons avec beaucoup d'autres pays. La volonté d'aller vers l'absence de présence militaire, pas que de la France, mais de n'importe quel autre pays, ne doit pas être interprété comme une volonté de rupture de toute relation avec la France.
Nous appelons nos alliés à soutenir notre démarche et à accompagner le Tchad dans la consolidation de ses capacités de défense et de sécurité. Le gouvernement est instruit pour procéder à la mise en œuvre de ces décisions en prenant attache avec la partie française. Le Tchad n'est nullement dans une logique de remplacement d'une puissance par une autre, encore moins dans une approche de changement de maître. Notre pays croit avec foi en sa capacité de défendre son intégrité et assurer la sécurité de ses citoyens et leur bien. Cette décision constitue donc un acte souverain, mûrement réfléchi, entièrement assumé, visant à renforcer notre indépendance nationale et répondre à un engagement fort pris devant le peuple tchadien.
Alors Antoine Glaser, quelles sont les raisons en fait qui ont conduit à cette catastrophe? En plus, sur le Tchad, c'est arrivé extrêmement vite, quelques heures après la visite du ministre des Affaires étrangères. Personne ne s'y attendait. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la France a commis des erreurs? Lesquelles?
La France a vécu ce que j'appellerais moi un anachronisme historique. C'est-à-dire la France n'a pas vu l'Afrique se mondialiser. Elle n'a pas vu vraiment le souverainisme monter. Elle n'a pas vu que ses propres partenaires et alliés qu'elle a essayé d'entraîner dans le Sahel, en fait, et avaient leur propre politique bilatérale. Pendant toute une période historique, pendant que la France continuait à faire le gendarme de l'Afrique, ses propres partenaires, je parle des partenaires européens, allemands particuliers, autres, eux, ils faisaient le business. Donc, ils ont accompagné comme ça, gentiment, pendant toute une période, Emmanuel Macron dans le Sahel, avec une opération qui s'appelait Takuba, mais très peu. En fait, la France était toujours un peu comme ça, les autres pays en vol de canard derrière la France. Et à un certain moment donné, la France, elle s'est retrouvée, pour dire court, à poil. Ça veut dire, elle s'est retrouvée, comme je disais tout à l'heure, hors sol. Et le symbole du Tchad, le Tchad... Vous savez, vous avez ce qu'on appelait les valeureux capitaines de l'Empire qui ont malheureusement découpé l'Afrique de l'Ouest en tranches napolitaines, Togo, Bénin, etc., pour arriver au bassin du lac Tchad en 1900. Le Tchad, c'était vraiment, depuis 1900, l'armée française est présente au Tchad. Le président de ces pays, c'était vraiment toujours l'homme de la France. en 1990, c'est la DGSE qui a accompagné le président tchadien Idriss Déby au pouvoir, qui arrivait de Khartoum parce que l'ancien président Hissène Habré avait fait un enfant dans le dos de la France en faisant alliance avec les Américains. Donc, voyez,
alors que lui-même, Hissène Habré,
au début, était avec les Français, avait été mis en place par la France. Bref, tout ça pour dire que la France, non seulement a perdu la main, mais était dans un anachronisme historique, qui n'a pas vu l'Afrique se changer. Et quand vous revoyez ça aux yeux de l'histoire, vous vous dites, eh ben, c'est le repli sur les côtes. Vous avez une pénétration coloniale depuis le début, évidemment, depuis 1900. Et ensuite, vous avez un repli sur les côtes. Et maintenant, vous voyez bien que, au bout d'un moment, l'ensemble de ces pays, les uns vis-à-vis des autres, avec cette montée de cette jeunesse africaine, de ce souverainisme, et aussi, bien évidemment, l'Afrique s'est totalement mondialisée. Et la France a toujours pensé qu'elle était au cœur de l'ensemble de ces pays, alors que ça faisait bien longtemps qu'il n'y avait plus de coopérants, il n'y avait plus non plus cette relation intime d'un certain nombre de dirigeants africains avec la France. C'est pour ça que je parle toujours d'anachronisme historique.
À partir de quel moment une force militaire française est considérée comme une force d'occupation sur le théâtre africain? Est-ce qu'on peut le cerner?
Bon, le fait est que Emmanuel Macron, il a pensé qu'avec un certain nombre de rapports historiques, on l'a vu sur le rapport sur le Rwanda, le rapport ensuite avec Benjamin Stora sur l'Algérie, le rapport maintenant récemment de Karine Ramondi sur le Cameroun, il a pensé comme ça qu'on pouvait tirer l'ardoise magique un peu sur toute cette période de cette France-Afrique et que la jeunesse africaine, avec ses rapports, allait s'en satisfaire. Mais il n'a pas compris que tout passe sauf le passé. Et donc vous avez eu une espèce de vague, sorte de boomerang, finalement, de toute cette période historique qui revient, alors qu'évidemment que l'Afrique est totalement mondialisée, et en particulier, il y a les Russes dans l'armement et l'influence, mais vous avez les Chinois qui sont vraiment les premiers partenaires. Moi, j'ai vu dans les milieux patronaux français, on me disait, mais Antoine, arrête de nous emmerder avec les Chinois, on connaît nos amis africains, les Chinois auront besoin de nous pour parler aux Africains. On s'est leurré, on était dans une période, une sorte d'aveuglement même. Il y a un anachronisme historique au niveau des pouvoirs français, mais il y avait un aveuglement dans l'ensemble des communautés françaises qui se sont toujours crues chez elles en Afrique, parce que tout à l'heure on parlait de la différence entre la France et l'Angleterre, c'est que pour les Français c'est quand même l'assimilation, on a toujours voulu créer des Africains à notre image, on a exporté dans ces pays constitution, la langue, je ne vais pas critiquer, on a exporté notre langue, mais je veux dire c'était un système intégré. Les Anglais c'est le pire avec l'apartheid en Afrique du Sud, par contre c'est chacun dans son club, les Britanniques c'est comme ça. Quand vous avez des filles qui se font enlever à Chibok au Nigeria, ils ne vont pas demander au Premier ministre britannique d'intervenir. La France, pendant très longtemps, quand vous avez un criquet qui se tridulait dans le Sahel, on a l'impression que c'était notre responsabilité. Vous voyez comment c'est vraiment ces deux façons aussi idéologiques et politiques d'agir, d'intervenir.
France Culture, ils ont changé le monde. Les accords internationaux. Isabelle Lasserre.
Général de Bamakoff, est-ce qu'on aurait dû rappeler les militaires français plus tôt du Mali et du Sahel? Est-ce que ça aurait changé quelque chose?
Sur la situation d'aujourd'hui, ces accords de défense, tout le monde sait et tout le monde s'accorde à dire qu'ils ont perduré au-delà du raisonnable. Ça n'avait plus aucun sens depuis très très longtemps. La situation du Mali est une situation des 10 dernières années, pour simplifier, de 2013 à aujourd'hui. La vérité, c'est que les forces de présence, de souveraineté, qui étaient déployées dans nombre de pays africains, n'avaient plus de raison d'être, et c'est ce que dit entre les lignes, que je partage, depuis très très longtemps, depuis plus de 25 ans. Pourquoi? Parce que nos accords de défense, pour simplifier, parlons des clauses qui sont connues, ne parlons pas des clauses qui touchaient à l'énergie et qui étaient beaucoup plus importantes de mon point de vue pour la puissance et l'influence de la France, mais ils touchaient autour d'une présence permanente de forces françaises réduites en Afrique. Premier point. Ça, visiblement, c'est une erreur d'appréciation considérable. Et ça, c'est la fin des années 90. Quand ces accords de défense sont tous rénovés et revus sous la présidence Chirac et le Premier ministre doit être Lionel Jospin à l'époque, ils tournent autour de 4 éléments. Hein. La présence permanente des forces, qui est réduite certes par rapport à ce qui existait, mais qui est maintenue. Ensuite, les engagements militaires bilatéraux sont, entre guillemets, définis comme étant limité à la sécurité des ressortissants français, c'est-à-dire au fond des opérations d'évacuation et de mise en sécurité de nos ressortissants si les choses tournent mal. Ensuite, tout recours privilégié à la force doit se faire dans un cadre multilatéral, c'est-à-dire l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine, des organisations régionales, subrégionales, etc., etc. Et le quatrième point qui n'est pas rien, c'est que la France élabore à ce moment-là un concept qui s'appelle le concept RECAMP, qui est la capacité de renforcement des capacités africaines de maintien de la paix à la fin des années 90. Ces quatre éléments figurent depuis 25 à 30 ans, au fond, dans toutes les réflexions françaises. Mais on voit bien à quel point il y a un manque de cohérence et c'est complètement décalé par rapport à la situation que vivent ces pays. De quoi ont besoin ces pays ? Ils ont besoin, d'une part, d'affirmer leur souveraineté, notamment vis-à-vis de leur jeunesse, qui est tout à fait essentielle. Ensuite, ils ont besoin, bien sûr, d'une aide à la gouvernance, au développement, mais que l'on peut assurer par énormément d'instruments, qui sont des instruments qui ont fait leurs preuves, qui demandent du temps, qui sont pour la plupart des instruments de nature civile. Et enfin, ils ont besoin de sécurité et de sûreté, mais ils n'ont pas besoin de présence permanente. Ils ont besoin que, si les choses sont déstabilisés par un facteur extérieur, les moyens capacitaires de la France, la fulgurance, permet d'intervenir et ensuite de se retirer pour les laisser traiter les choses. C'est ce qu'on décrivait tout à l'heure entre Serval et Barkhane. Lorsque
donc les deux
les
interventions
sont en train de se déstabiliser
au Mali, puis au Sahel.
Au Mali, lorsque les choses se déstabilisent en janvier 2013 au Mali, eh bien il faut évidemment déployer très rapidement une force pour bloquer l'avancée des djihadistes. C'est fait, c'est très bien fait. Faut-il ensuite rester pour gérer la sûreté d'un territoire grand comme l'Europe avec 5000 hommes pendant 10 à 15 ans? Franchement, la question mérite de se poser.
Antoine Glaser, bon, là on parle de la manière dont la France n'a pas vu l'Afrique changer et le monde changer. Mais enfin, on peut aussi incriminer les chefs d'État africains.
Et comment ?
Corrompus,
bien sûr.
Adeptes de la malgouvernance, du clientélisme, des visions à court terme. Tout ça, ça a entraîné en fait une rupture avec les sociétés et ça a favorisé la montée du djihadisme. Donc pour que le tableau soit complet, il faudrait
absolument
aussi parler de ça.
Ah non, mais vous parlez, j'ai écrit un Africa-France quand les dirigeants africains deviennent les maîtres du jeu. Parce qu'un certain nombre d'entre eux, bien sûr qu'ils ont aussi instrumentalisé le pouvoir à Paris pour se maintenir en place. On a accepté comme ça des changements de constitution, on a accepté que des dynasties s'installent comme ça au pouvoir en Afrique, bien évidemment. D'ailleurs, un certain nombre d'entre eux, c'est pour ça que c'est très pervers et sous forme de boomerang, ils ont instrumentalisé aussi leur jeunesse. Ils disaient à leur jeunesse, voyez, le président Macron, les autres présidents français, ils nous imposent ci et ça, etc. Ça veut dire alors qu'on est souverain. Ça veut dire, bien sûr, ils ont joué double jeu. Ça, c'est absolument une évidence. Mais c'est aussi vrai que, encore une fois, il aurait fallu à un moment donné les mettre devant leurs responsabilités. Et à chaque fois que la France est intervenue, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, même quand elle intervient dans le cadre des Nations Unies, elle intervient toujours comme la force licorne en Côte d'Ivoire. Mais elle expliquait à un jeune Africain qu'un soldat français qu'elle voit sur le pont Abidjan où il y a des hélicos qui sont en train de tirer, que la France intervient dans le cadre des Nations Unies avec l'accord de ses partenaires et n'intervient pas dans le cadre de la France-Afrique, c'est impossible. Je veux dire, quand vous avez un passé historique aussi particulier que cette période quand même pendant 30 ans et avant il y avait la colonisation, vous voyez bien qu'ils vont avoir envie, bien évidemment, de renverser la table. C'est ce qui se passe actuellement. Et encore une fois, nos propres partenaires, ça s'est vu même avec Emmanuel Macron sur le Sahara occidental, quand vous avez vos partenaires, l'Espagne, l'Allemagne, qui vont reconnaître le Maroc du Sahara occidental, ben la France, là, elle est bien obligée aussi de suivre pour des questions de business. Donc, encore une fois, c'est pour ça que je retiens toujours le mot d'anachronisme historique, c'est-à-dire on a l'impression qu'on se trouve en déphasage. Mais il ne s'agit pas non plus de dire que les chefs d'État africains, que les pouvoirs africains, quand vous voyez que vous avez un certain nombre d'entre eux qui ont dépassé, que certains ont même 90 ans, sans citer de pays, qui est le Cameroun, vous voyez, il y a quand même un problème. Mais la France a été aussi responsable, c'est-à-dire ça l'a arrangé d'avoir ces chefs d'État pendant autant de temps. Quand vous voyez le dernier accord de défense qui a été signé, c'était avec le président Ismaël Omar Guelleh, c'est en train d'être ratifié. Ça a été signé par Emmanuel Macron au mois de juillet avec ce président djiboutien. Mais lui, maintenant, il a les Américains. La France va être obligée de payer 85 millions d'euros pour laisser ses 1 500 soldats, alors que les Américains en ont 4 500, parce que maintenant, un président djiboutien, il a le monde entier, et à ce moment-là, il va faire payer à la France, alors que c'est la France, au niveau de l'accord de défense, qui assure sa sécurité. C'est le deal de l'accord de défense. Donc voyez comment la France est un peu piégée maintenant en Afrique.
Et alors, il y a aussi une question, parce que c'est lié, mais alors comment on explique l'épidémie de coups d'État qui ont eu lieu en Afrique, et notamment au Sahel ?
Ben, très simplement, d'abord, il y a une forme aussi de mimétisme. Et puis, voilà, dans chaque pays, on sait bien que c'est vraiment l'armée qui est évidemment le corps constitué quand un pays part totalement à la dérive. Et bien évidemment que vous avez ces militaires, très souvent d'ailleurs formés par la France, qui s'installent au pouvoir. Alors certains, ils restent 2 ans, ils s'habillent en civil, comme c'est en train d'être fait au Gabon avec monsieur Oligui Nguema, qui est l'ancien aide de camp du président Omar Bongo. Mais ça se voit dans tous ces pays. Et ils s'installent avec... des corps constitués, parce que c'est tout ce qui reste malheureusement dans un certain nombre de ces pays. Et il faut quand même toujours rappeler, on parle des djihadistes, mais c'est surtout l'économie informelle et c'est la survie au quotidien en Afrique. Il faut quand même rappeler ça. La réalité, c'est que pour les jeunes, c'est la survie au quotidien. Donc si c'est pas pour conduire un camion pour des djihadistes, à un certain moment donné, il va rentrer dans l'armée ou autre. C'est-à-dire c'est des pays quand même qui vont extrêmement mal et c'est la survie au quotidien. Il faut quand même toujours rappeler ça.
Alors, on ne peut pas parler de l'Afrique sans parler de la Russie aujourd'hui. Et on va écouter le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, qui était à Sotchi, en Russie, le 9 novembre 2024. C'est un son Arte. Et le ministre, on va le voir, explique que la Russie, contrairement à la France, n'est pas une puissance coloniale.
Désormais, nous n'allons pas prendre nos instructions à Paris, à Washington ou ailleurs. Nous voulons des partenariats respectueux, des partenariats sincères, des partenariats gagnants-gagnants. Certains disent même que, mais pourquoi vous allez vers la Russie et c'est quitter un maître pour aller vers un autre maître? Nous avons dit, mais vous avez tout faux. C'est pourquoi j'ai commencé par là, pour dire que non, la Russie n'est pas une ancienne puissance coloniale, elle n'est pas une puissance coloniale.
Général de Babenkov, comment on explique en fait le succès de la Russie et le succès de Wagner, qui ont réussi quand même à, dans certains pays, pousser dehors les forces françaises?
Je ne pense pas qu'on puisse dire les choses comme ça.
J'étais sûr que vous alliez me dire ça.
Non, que nous nous soyons retirés, c'est vrai. Que ce soit les forces Wagner qui nous aient poussés dehors.
J'ai dit parfois, dans certains cas.
Je ne le vois pas ainsi nulle part. En revanche, ce que je veux dire, c'est que, oui, il y a un piège qui s'est refermé sur la France. Mais pourquoi s'est-il refermé? Pour 2 raisons. La première, c'est que, à partir du moment où nous assumions les responsabilités de maintien de la sécurité et de la stabilité, si nous n'intervenions pas, nous ne sommes plus considérés comme une grande puissance et nous sommes considérés comme faibles, et donc notre image se détériore. Et si nous intervenons, notamment en soutien de régimes cacochimes ou corrompus, parfois les deux, évidemment, nous sommes soupçonnés, à juste titre peut-être, de défendre des intérêts qui sont des intérêts illégitimes. Et donc ce double piège s'est refermé. Mais là, je pense qu'il faudrait rééclairer cette politique africaine que nous devons mener, d'abord du fait de notre histoire et du fait de nos intérêts. Et nous aurions dû l'éclairer à un moment clé, à un moment charnière. Je disais tout à l'heure, à la fin des années 90. Et en réfléchissant, je me dis, mais non. C'est bien trop tard. Ça, c'était il y a 25-30 ans. En fait, c'est à la chute du mur de Berlin. C'est au moment où l'URSS s'effondre. C'est à ce moment-là que nous aurions dû revisiter tout cet ensemble de relations avec l'Afrique. Il n'y avait pas de raison de perdurer au-delà, puisqu'en tous les cas, la menace apparente qui était réelle et qui était une menace d'influence et d'action profondément déstabilisatrice que menait l'URSS avait disparu. Il fallait revisiter à ce moment-là. Et si nous l'avions fait, nous ne serions certainement pas aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous sommes. Nous ne l'avons pas fait pour bien des raisons. D'abord parce que probablement nous avons perdu véritablement, je le souligne, le sens de ce que sont nos intérêts. Nos intérêts, c'est de continuer à être une puissance capable de s'approvisionner auprès de pays amis de ses besoins en ressources minérales et énergétiques qui lui sont absolument indispensables à son propre développement et au développement de ces pays qui disposent de ces ressources. C'est ça qui est absolument essentiel. Nous avons perdu ce fil directeur, nous avons perdu cette compétence, nous avons perdu ces connaissances, nous avons perdu cette école qui avait vivifié une quantité d'institutions de la République française, et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je ne suis pas du tout pessimiste. Je pense qu'au contraire, il y a une prise de conscience aujourd'hui très réelle de la façon de rénover profondément pour les armées, cette entreprise, mais également pour le Quai d'Orsay, pour la culture, pour le ministère de l'économie et des finances. Il faut l'entreprendre. Ce sont des relations qui sont absolument essentielles et qu'il faut rénover profondément pour poursuivre ce chemin avec nos amis africains.
Antoine Glaser, le succès de Wagner, est-ce que c'est pas non plus lié au fait que la Russie, contrairement à la France, ne demande pas quand elle intervient auprès des régimes africains, une contrepartie en matière de respect des droits de l'homme et de la morale, etc. Est-ce que ça compte, ça ?
Oui, enfin, c'est vrai, mais c'est pas l'essentiel. En plus, on a bien vu avec Wagner, mais je suis d'accord, je veux dire, je pense que la Russie, elle a surfé sur des situations. Alors il y a des pays comme le Mali où la Russie, puis Modibo Keïta était présente. Il y a tout un nombre de militaires maliens qui ont toujours été pro-russes.
Formés à Moscou.
Ils ont été formés à Moscou, etc. Donc il faut voir pays par pays. Il ne faut pas croire non plus que la Russie est arrivée de nowhere. Ils étaient déjà très présents. Il y a eu des mouvements de libération en ce nombre de pays comme l'Angola, le Mozambique et autres. En Algérie, ils étaient aussi extrêmement actifs. Mais encore une fois, là je suis complètement d'accord avec le général. Par exemple, un pays comme le Tchad, il y a peut-être les Russes, mais ce sont quand même parce que les Émiratis ont financé le fils Mohamed Déby pour pouvoir intervenir au Soudan. Donc vous avez des situations extrêmement complexes maintenant. Vous avez une Afrique totalement mondialisée. Et encore une fois, c'est pour ça que je dis que la France n'a pas vu ça. Je suis aussi totalement d'accord que les choses auraient dû se faire vraiment au moment de la chute du mur de Berlin en 89-90. Là, il y avait le président Mitterrand qui a fait un petit discours, le discours de la boule que son conseiller Eric Orsena avait écrit sur un coin de table en disant « si vous allez vers la démocratie, vous aurez un peu plus d'argent », mais tout ça a été pipeau. Il aurait fallu faire un vrai sommet avec les anciens partenaires de la France en disant « mais attendez, maintenant c'est fini la guerre froide, il faut vraiment revoir nos accords, il faut tout changer ». Là, on aurait pris conscience de cette mondialisation. Ça aurait dû se faire en 89-90 et on a continué à se croire chez nous en Afrique. On a continué à faire comme avant. Et c'est ça, vraiment, l'erreur fondamentale qu'on voit avec le recul historique de maintenant.
Beaucoup de paresse intellectuelle. Franchement, beaucoup de paresse intellectuelle. Notre génération, parce que il faut aussi accepter les responsabilités, notre génération a succédé à une génération qui était extraordinairement travailleuse, ancrée dans le réel, avec une connaissance africaine, pays par pays, ethnie par ethnie, qui était absolument considérable. Moi, je me rappelle, mes oreilles étaient émerveillées, mes yeux étaient émerveillés lorsque j'avais la chance de rencontrer un de ces vieux Africains. Ils étaient jeunes, hein, ils avaient 50, 60 ans, mais ils avaient consacré véritablement toute une partie de leur vie. Ils avaient véritablement une réelle compétence. Ils ne parlaient pas depuis le périphérique parisien. Ils parlaient avec ce regard qui était un regard à la fois amical, qui était un regard culturel, qui était un regard historique, et qui était un regard extraordinairement pertinent.
Antoine Glaser, quid de Wagner en Afrique ?
Wagner, les Russes, un certain nombre de chefs d'État, encore une fois, ils vont en Russie, ils vont au Qatar, ils vont dans les Émirats. On parle beaucoup de la Russie à juste titre parce que par rapport à la France. Mais ça, c'est vraiment la confrontation par rapport à la France en Afrique, compte tenu du fait que c'était l'ancienne puissance coloniale et qui était la seule puissance à avoir des militaires, des troupes, des bases en Afrique. Mais encore une fois, on parle moins, par exemple, de l'influence des Saoudiens en bagarre avec les Qataris sur le continent. Je veux dire, l'influence du prosélytisme même de l'islamisme saoudien sur l'ensemble du continent, en bagarre avec les frères musulmans du Qatar. On pourrait faire tout un débat aussi là-dessus. Ils sont aussi présents dans tout le Sahel. Et un certain nombre d'entre eux, de voir les Français partir, ils ne sont pas mécontents parce qu'ils ont un certain type de culture, etc. Donc il faut voir ça dans vraiment une Afrique mondialisée. Et c'est vrai que la France, pour garder son poste au secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, il y a encore un ambassadeur, Jean-Pierre Lacroix. Mais les Chinois veulent ce poste maintenant. C'est-à-dire, on s'est endormi. Il n'y a pas d'autre mot.
Et quel est l'objectif de la Chine en Afrique ?
Ah ben la Chine, ils sont formidables, parce que, enfin formidables de leur point de vue, on ne les entend pas. Ils installent des instituts Confucius à l'intérieur des universités africaines. J'ai un copain à l'Institut français de Côte d'Ivoire qui a dit « Mais si on faisait la même chose, qu'est-ce que vous ne diriez pas ?» Il dit « Ah ben non, mais nous c'est le dialogue entre les peuples, alors vous, vous êtes les anciens coloniaux. » Et ce sont vraiment, que ce soit dans pays comme la RDC et autres, à partir du moment où eux, ils n'exportent pas à l'extérieur de leur pays leurs terres rares, eux ce qu'ils intéressent c'est vraiment les minerais africains, bien sûr le business, les routes de la soie, et c'est s'installer en Afrique pour exporter en Europe. C'est les routes de la soie, ça veut dire, là ils ont des problèmes au Maroc, les Américains sont pas contents parce que les Chinois s'installent au Maroc et exportent à partir du Maroc. Donc eux, c'est vraiment open bar, l'Afrique c'est open bar maintenant.
Général de Bavinkov, est-ce que vous pensez que les militaires français pourraient revenir un jour en Afrique ? Par exemple, pour refaire la même chose que Serval au Mali, parce que finalement, le djihadisme prospère toujours sur le continent. Et qui va faire le job ?
Ah, dans ce type de circonstances, oui, bien sûr. Bien sûr, pour des opérations de va-et-vient, pour des opérations de coups de poing, pour des opérations où les moyens de fulgurance dont nous disposons, nous, les Britanniques, les Américains, quelques autres encore, sont absolument nécessaires pour porter un coup d'arrêt et aider nos amis africains de tel ou tel pays, afin qu'il ne soit pas davantage déstabilisé. Ça, il me semble que ça sera très probablement encore, nous aurons ce type d'opération. Mais ça n'a rien à voir avec ce que nous avons vécu pendant ces 60 dernières années. C'est-à-dire qu'il s'appuyait sur un tissu extraordinairement dense au départ. On avait à peu près, dans les années 60-70, il faudrait que je regarde un tout petit peu, mais je crois qu'on n'est pas loin de 30 000 hommes en Afrique. 30 000 hommes, hein, disséminés dans beaucoup de pays d'Afrique. C'est énorme, 30 000 hommes à l'époque. Alors, le dispositif s'est réduit, s'est délité progressivement. Ça avait sa cohérence. Mais oui, des interventions coup de poing, des interventions pour rétablir une situation compromise, des interventions permettant d'apporter une armée africaine qui se bat contre un ennemi extérieur des moyens dont elle ne dispose pas et dont elle ne disposera pas dans ce siècle et peut-être dans ce millénaire. Oui, bien sûr, ça nous pourrons encore le faire et je crois même que c'est quelque chose d'assez essentiel que nos amis africains savent qu'ils peuvent compter sur nous. Mais vous savez, au-delà de ça, moi je pense que nous avons un besoin profond de rénover véritablement les relations avec tous ces pays qui sont des pays amis. Il y a une profonde amitié au-delà des péripéties que nous observons dans les propos récents au Sénégal, au Mali, ailleurs. La vérité, c'est qu'il y a une profonde amitié entre les pays africains francophones et la France. Et d'ailleurs, il y a des communautés très importantes qui vivent et qui vivent en France. Je crois que ce qu'il faut, c'est s'attacher demain à rénover en bénéficiant de l'expérience des Africains. Nous avons aujourd'hui des Français qui sont beaucoup moins expérimentés en Afrique qu'ils ne l'ont été. Nous avons la chance d'avoir quelques grands experts qui ont consacré leur vie, mais ils sont devenus très peu nombreux, alors qu'ils étaient, je vais dire une bêtise, mais pléthore. Je pense que vraiment, il y a 40 ou 50 ans, il y avait des milliers et des milliers de Français qui avaient une très grande compétence. Eh bien, cette compétence, il faut l'attirer chez nous. Donc, il faut développer l'accueil d'étudiants africains. Il faut ouvrir des postes dans nos différentes administrations. Moi, je milite et je plaide depuis très longtemps pour qu'on accueille dans nos états-majors, pour ce qui concerne les armées françaises, des officiers africains d'échange, comme nous envoyons des officiers auprès d'armées africaines pour les aider à se développer sur tel ou tel aspect des combats modernes. Accueillons des officiers africains de ces mêmes pays qui vont nous apporter une connaissance intime des problématiques de sécurité et de stabilité et de la façon d'y répondre.
J'ai une autre question pour le général que vous êtes. Quelles sont les conséquences en fait du retrait français en Afrique pour l'armée française ? Que sont devenus les africanistes ? Est-ce qu'il y a un basculement du pouvoir du côté du front Est ? Comment c'est vécu au sein de l'armée française ?
C'est vécu très probablement par ceux qui se sont engagés avec un regard qui est un regard décalé par rapport à la réalité du monde d'aujourd'hui. Très probablement, c'est vécu assez douloureusement puisqu'il y avait des habitudes, et peut-être des habitudes malsaines, qui avaient été prises en termes d'organisation des carrières pour justement essayer de gagner cette compétence. Mais je pense que notre pays, il ne doit pas être guidé par des habitudes. De guider par ses intérêts. Voilà. Quels sont aujourd'hui les intérêts de notre pays ? Où est la menace ? Comment y faire face ? Comment s'adapter face à cette menace ? C'est ça, les enjeux auxquels il faut se consacrer. Imaginez qu'on va restaurer ce qui a été le passé, plus ou moins intéressant, plus ou moins glorieux de nos aînés, n'a pas beaucoup de sens. Ce qui est intéressant, c'est de regarder demain, de faire face à cette menace, de s'y organiser et d'adapter nos forces en conséquence.
Mais les intérêts de la France, Antoine Glaser, c'est aussi des intérêts en termes de sécurité. Ce n'est pas seulement les matières premières et les richesses de ces pays-là. Or, l'Europe et la France et le Sahel sont-ils plus sûrs depuis que les militaires français sont partis?
Je vais être assez violent, je vais dire c'est leur problème. Bien sûr, c'est notre problème au niveau, on va dire, de l'immigration, etc., etc. Mais encore une fois, et là je suis complètement d'accord avec le général sur l'histoire, vous avez une frustration terrible chez les cadres africains. Eux, ils considèrent que ça va être à eux de gérer. Il faut encourager, il faut former et aussi discuter avec les cadres africains. C'est l'Afrique aux Africains. On n'a plus la capacité du tout d'intervention sur n'importe quel plan, manque de connaissances et autres. Et eux, je vais vous donner un seul exemple. Il n'y a plus de relation entre la France et le Mali, mais vous avez 400 à 500 000 Maliens en France, on n'entend pas parler. Vous avez des échanges entre Maliens et Français extrêmement fructueux, importants et autres. En dehors même de l'État, en dehors de l'armée, en dehors de tout. Donc c'est ça qui est très important. Et s'appuyer vraiment sur ces cadres africains qui considèrent qu'ici, ça soit même dans pas simplement le domaine militaire, mais universitaire, qu'il y a un plafond de verre, qu'ils n'ont pas accès, des problèmes de visa, etc. Si on veut renouer une relation différente, à ce moment-là, il faut aussi changer complètement de façon de raisonner et de faire. Ce n'est pas nous qui pouvons faire quoi que ce soit actuellement en Afrique.
Général de Bamako, alors comment en fait on gère nos intérêts de sécurité qui sont quand même liés à ces pays-là?
Ben, on les gère comme la Grande-Bretagne ou l'Allemagne gèrent ses impératifs de sécurité, à dire vrai. Je ne vois pas vraiment de différence dans notre situation géopolitique à l'ouest de l'Europe. Nous avons la chance d'être à l'ouest de l'Europe, nous sommes sur la façade atlantique de l'Europe, comme la Grande-Bretagne, comme la Belgique, comme les Pays-Bas, comme l'Allemagne. Et bien sur cette façade, comme l'Espagne, comme le Portugal, sur cette façade atlantique, nous gérons nos intérêts de sécurité de façon un peu similaire. Je crois que nous avons perdu beaucoup de temps. Maintenant, il faut véritablement se remettre au travail, redéfinir ces éléments nouveaux de la politique vis-à-vis de l'Afrique. Bien sûr, ne rien abdiquer de nos impératifs de sécurité, mais de nos intérêts également dans les domaines que nous avons évoqués. Mais je ne crois pas qu'il y ait une inquiétude particulière à avoir sur l'évolution des choses. Ces pays sont indépendants depuis plus de 60 ans. Plus de 60 ans. Donc maintenant, c'est à eux, évidemment, de se mettre en route et de définir les voies et moyens leur permettant d'assumer les responsabilités qui sont les leurs.
Antoine Glaser, on a parlé tout à l'heure d'un accord récent avec Djibouti. Est-ce qu'il y a d'autres exemples d'accords qui, en fait, vont remplacer les accords de défense défunts? Est-ce qu'on est en train de renouveler, en fait, ce genre?
Non, en fait, l'accord avec Djibouti est totalement particulier. C'est vraiment le dernier accord de défense sur le continent. C'est un accord, d'abord Djibouti, c'est vraiment beaucoup plus tourné vers l'Indo-Pacifique, l'océan Indien, le canal de Panama, beaucoup plus que l'Afrique, même si le président Emmanuel Macron a dit à plusieurs reprises qu'à partir de Djibouti, c'était possible d'intervenir sur le continent. Mais Djibouti, il y a le monde entier à Djibouti. Il y a les Chinois qui sont en chaîne de faïence avec les Américains. Il y a l'Arabie Saoudite et la Turquie qui veulent aussi venir, etc. Donc, et la France est obligée de payer le prix fort parce qu'avant, elle était en situation de monopole. Donc, sur l'ensemble du continent, maintenant, ce sont des accords de formation militaire, sauf que toute la coopération, malheureusement, militaire française a décliné. De moins en moins de formateurs. On faisait à la place d'eux. Et donc, maintenant, sur les formateurs, vous aurez sur les 350 au Gabon ou dans un ensemble de pays qui sont demandeurs de formation militaire. Mais encore une fois, il y a vraiment une période historique là, qui se tourne.
Voilà, écoutez, c'est une très bonne conclusion, Antoine Glaser. Le monde entier a remplacé la France en Afrique. L'heure a sonné de la fin de cet épisode consacré aux accords de défense entre la France et ses anciennes colonies. Merci beaucoup Antoine Glaser et merci beaucoup aussi Général de Bavinkov. C'était Les Grands Accords Internationaux, une émission d'Isabelle Lasserre, réalisée par Laure-Hélène Planchet, avec à la technique aujourd'hui Jean-Guilain Meige, attaché de production Théa Corlaire. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site franceculture.fr.